Bonjour tout le monde. À ceux que j'ai pas vus quand je suis arrivé. Ça enregistre pas encore, c'est bien. Si, mince. Arrivons avant 10h, s'il vous plaît. Pour pas finir à 12h30. Non, c'est important. Je voudrais juste démarrer par là et nous le redire. Arrivons tôt, s'il vous plaît. Et profitons d'un temps de café, d'un temps de thé, d'un temps de communion fraternelle avant le culte. Voilà, c'est riche. Donc à partir de 9h30, vous pouvez commencer à arriver et je nous encourage à arriver tôt pour qu'on puisse démarrer vraiment nos cultes à 10h. On a plein de choses à chaque fois à vivre dans nos cultes et c'est bien qu'on puisse le faire tôt. Ok. Vous avez tous vos Bibles ? Philippiens est ouvert ? Oui ? On continue de traverser ? Oui, c'est le Bible en langage des signes, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième péricope. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière et qui ont entendu le message de Farid, on a découpé Philippiens en péricopes, c'est-à-dire des bouts de Philippiens, et puis on va passer ensemble là-dedans. Et ce matin, cette deuxième péricope, elle va nous concerner dans Philippiens 1, du verset 12 jusqu'au verset 25. Donc on va les lire ensemble pour démarrer. Verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et j'en m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Waouh. Merci Paul. On l'a dit la semaine dernière, Paul il est en captivité, il est enfermé probablement à Rome, effectivement je rejoins Farid là-dessus, c'est il me semble la théorie la plus solide. Il est en captivité dans le prétoire, on en parlera tout à l'heure de ce que c'est ce prétoire, et il écrit cette lettre à Philippe, et on pourrait s'attendre, enfin on est au bout là, du ministère de Paul. Paul qui subit un coup d'arrêt en étant mis en prison, on pourrait s'attendre à ce moment-là à ce que Paul il soit en train de dénoncer l'injustice de cette situation. On pourrait s'attendre à ce que Paul il se lance en guerre contre l'ennemi qui est en train de mettre un coup de frein à son ministère. On s'attendrait à ça, on le lit aujourd'hui. Plein de gens qui disent « Ah, le Seigneur m'arrête en pleine course ». On pourrait peut-être même s'attendre à ce que Paul fasse des reproches à Dieu pour ce qui est en train de lui arriver. Et ça, on l'entend aussi. Mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça ? Et pourtant, dans ces quelques versets, il n'y a rien de tout ça. Et là, on a une leçon à en tirer, les uns et les autres. On est tous concernés par ce qu'on va dire ce matin. Et en fait, loin de regarder à l'épreuve qu'il traverse, Paul, selon son regard humain, Paul y vit et y considère le moment qu'il est en train de vivre selon une perspective qui est bien supérieure. Et c'est cette perspective-là qui change tout. Et cette perspective, c'est Christ. Christ. C'est vraiment le fil rouge de cette péricope, des versets qu'on a lus. Hein. Les yeux de Paul, ils sont fixés sur Christ tout au long de ces 14 versets. Voilà la perspective dans laquelle Paul est en train de traverser cette captivité à la fin de son ministère. Les yeux fixés sur Christ, et même au milieu de l'épreuve qu'il traverse. Et je crois que c'est un encouragement pour nous, nous tous, alors qu'on peut avoir naturellement tendance à baisser les yeux hein, sur ce qui fait courber nos épaules, à regarder les épreuves que nous vivons et à regarder nos souliers, tout simplement, et bien à plutôt considérer autrement les situations que nous vivons, qu'elles soient faciles ou qu'elles soient plus difficiles, et à lever les yeux et à adopter dans cette situation la perspective de ce que Dieu est en train de faire et la perspective de Christ dans ces situations. Et de ce que Dieu peut faire au travers de ce qu'on vit. Parce que Dieu est à l'œuvre tout le temps. Et parfois, dans l'épreuve, on a tendance à l'oublier. Des fois, on a l'impression que Dieu est à l'arrêt. Parce que nous-mêmes, on est à l'arrêt. Et est-ce que la Bible dit qu'il y a un seul moment où Dieu n'agit pas ? Est-ce que la Bible dit qu'il y a un seul moment où Dieu n'est pas en maîtrise totale de l'histoire ? Où Dieu n'est pas souverain sur toute chose. Non, les amis. Et ça veut dire que dans toute situation, Dieu est à l'œuvre, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Et c'est important d'attraper ça au début de ce message, de réaliser que oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des temps qui sont plus difficiles. Oui, il y a des épreuves qui sont même insoutenables. Il y a des gens qui sont déracinés de leur nation parce qu'elle est en guerre et qui viennent trouver refuge ici, c'est insoutenable. Est-ce que Dieu n'est pas à l'œuvre dans cette histoire ? Si, il continue de l'être. Mais ce que je voudrais qu'on puisse faire, c'est de ne pas nier l'épreuve, de ne pas faire juste de la pensée positive par rapport à ça, de reconnaître qu'il y a des temps qui sont vraiment difficiles. Et ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de ce message, et je vous le proposerai à la fin, on puisse aussi prendre le temps de prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui et ceux qui ont besoin, ceux qui sont au milieu d'une épreuve, et on prendra du temps pour ça. Je vous inviterai à juste lever votre main et on priera ensemble par rapport à ces épreuves. Ok, mais on va revenir à Paul, dans cette péricope que j'ai découpée moi-même en trois sous-péricopes. Je ne sais pas si la sous-péricope, ça existe, Farid, Pierre. Est-ce qu'on peut parler de sous-péricope ? Il y a bien des soupapes dans la voiture, je ne sais pas. Donc la première péricope, elle va du verset 12 jusqu'au verset 18, et je vous en propose ce titre. Je vous donne les titres, comme ça c'est facile, et puis si vous êtes pressé à la fin de ce culte, vous aurez au moins entendu ça. La première sous-péricope, c'est « Vivre pour annoncer Christ ». Vivre pour annoncer Christ. La deuxième péricope, elle ira du verset 19 jusqu'au verset 21, et c'est « Vivre pour glorifier Christ ». Et la dernière sous-péricope du verset 22 jusqu'au verset 25, je vous propose que ce soit « Vivre pour célébrer Christ ». Célébrer la joie de connaître Christ. Ça vous va ? Vous n'oserez pas me dire non de toute façon. Ok, donc première péricope, verset 12 à 18. Vivre pour annoncer Christ. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et bon, il y a le reste après, on ne va pas tout lire. Et en fait, dans ce passage, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Voilà ce que dit Paul. Et c'est fort. C'est-à-dire que c'était évident aux yeux de tous que Paul n'était pas en captivité parce qu'il avait les liens d'un criminel, mais celle d'un témoin de Jésus-Christ. Il était lié parce qu'il était témoin de Christ. Et Paul, il n'est pas juste chrétien, il ne va pas juste à l'église le dimanche. Il ne fait pas juste de l'évangélisation régulièrement, il ne fait même pas simplement les scouts. Merci pour ce que vous avez présenté, c'est excellent. Paul, il se présente comme témoin de Christ. Et c'est beaucoup plus que juste dire « je suis chrétien ». On a John Le Toc, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent ici, qui est une autorité apostolique à laquelle on se réfère au niveau de cette Église. John, qui est dans le gouvernement à Guernsey, qui était ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années, Premier ministre aussi, et qui, dans les rencontres qu'il avait avec les autres dignitaires, les autres dirigeants des autres pays, etc., ils remplissent une fiche pour présenter qui ils sont. Comme ça, ceux qui sont assis à table à côté des autres, ils ont les fiches les uns des autres, et ils savent en fait qui sont les uns et qui sont les autres. Et pendant longtemps, il s'est présenté comme chrétien, et il était frustré de réaliser qu'en se présentant comme chrétien, ça ne lui ouvrait aucune discussion particulière sur le sujet avec les autres, parce qu'il était chrétien, ok, bah les gens, ils n'avaient pas de questions par rapport à ça. Et puis un jour, il a eu à cœur de ne plus marquer qu'il était chrétien, mais de marquer qu'il était suiveur de Jésus-Christ. Et du jour où il a fait ça, les gens ont été interpellés. Et les dirigeants à côté desquels il était assis à table lors de repas ont commencé à le questionner par rapport à ça. Et il y en a plusieurs avec qui il a pu prier et il a pu continuer d'annoncer la parole de Dieu simplement parce qu'il a reconnu qu'il n'était pas juste chrétien. Ce n'est pas une identité, mais qu'il était suiveur de Jésus-Christ et que ça mettait toute sa vie en mouvement. Et c'est ça que Paul il nous propose dans ses premiers versets. Et j'ai envie de nous demander, est-ce que c'est comme ça qu'on se présente, nous aussi, autour de nous? Est-ce qu'on se présente comme des suiveurs de Jésus-Christ? Est-ce qu'on se présente comme des témoins? Est-ce qu'on se présente comme des chrétiens? Est-ce qu'on n'ose même pas se présenter comme ça? On est peut-être juste humain, certains le diront. Hein, mais soyons, il y a un encouragement de Paul, soyons nous aussi des témoins de Christ en toute chose et dans toutes circonstances. Et c'est en Christ, en fait, dans une communion vivante avec Christ dont Paul est le témoin, c'est dans cette communion-là que Paul il va endurer l'humiliation et la souffrance de sa captivité. Et c'est nul autrement. C'est pas juste parce que Paul était meilleur, c'est pas juste parce que Paul était fort, c'était parce que Paul était en communion avec Christ et qu'il savait que Christ a été lié. Il savait que Christ a été mis à mort. Et donc Paul, il savait qu'il pouvait vivre tout ça et traverser ça en communion avec Christ. Son focus n'a jamais changé. Et ce qu'on lit là, c'est que le fait que Paul est en captivité, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Et même plus que beaucoup de paroles, il nous est dit à d'autres endroits, dans d'autres écrits où Paul est en captivité, il le dit, ça a contribué, mais plus que si moi-même j'avais annoncé beaucoup de choses. Il y a eu un impact beaucoup plus grand. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont été encouragés par le zèle de Paul alors qu'il était en captivité. Alors qu'il était retenu prisonnier, Paul à continuer d'exhorter, d'encourager, d'envoyer des lettres, de dire « mais ne lâchez pas l'affaire, les amis. Ce que nous défendons est trop précieux dans ce monde. C'est une espérance éternelle. Ne lâchons pas cette vision que Christ est Christ et que nous sommes témoins de Jésus-Christ. » Et donc, nombreux sont ceux qui ont été encouragés par ce zèle-là et ont annoncé Christ aussi dans ce monde, et Paul dit qu'il s'en réjouit et qu'il s'en réjouissait et qu'il s'en réjouira encore. Et on en a l'exemple dans le prétoire où il est enfermé, hein, c'était la caserne de la cohorte prétorienne, c'est aussi pour ça qu'on pense que c'est globalement certainement à Rome qu'il était, vous le verrez juste après, et ça ne servait pas de prison à l'apôtre, d'accord, il était simplement retenu là-bas, mais en fait c'était des soldats du prétoire. C'était des soldats de cette garde prétorienne qu'ils gardaient en permanence, c'est ce qu'on voit dans Acte 28. Et comme ces gardes, ils se relevaient sans cesse pour garder Paul, et bien Paul, il a eu l'occasion de témoigner à un grand nombre de ces gardes-là. C'était génial! À chaque fois, il y avait des gardes qui se relayaient et à chaque fois, Paul pouvait recommencer et annoncer l'Évangile et annoncer encore. Et dans sa captivité, Paul a eu l'opportunité de répandre là aussi l'Évangile alors qu'il était pourtant théoriquement enfermé, bloqué, coincé, arrêté par l'ennemi. Et c'est ce qu'on voit un petit peu plus loin dans Philippiens 4, 22 où Paul dit « Tous les saints vous saluent » et principalement ceux de la maison de César. Pourquoi ? Ben parce que les gardes à qui Paul a parlé, eh bien, de leur côté, ils répandaient partout ailleurs, dans toute la ville, et jusque dans la maison de l'empereur, ce que Paul avait enseigné. Et donc l'évangile continuait de progresser malgré la captivité. Malgré le frein apparent, l'évangile continuait de progresser. Vous l'avez le point ? Ou j'insiste encore davantage ? Et Paul, en fait, il nous encourage, dans ces quelques versets, à saisir chaque occasion pour évangéliser. À saisir chaque occasion pour être un témoin de Christ. Paul, il ne regarde pas à l'épreuve, mais il regarde à ce que Dieu fait dans cette épreuve. Et Paul, il ne regarde pas au prix de la captivité, mais il regarde aux fruits que cette captivité peut produire. Et ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Recherchons, même dans les temps difficiles, le fruit que Dieu est en train de faire au travers de ces choses-là, même s'il est difficile à discerner. Mais reconnaissons au fond de nous-mêmes qu'il y a toujours un fruit que Dieu est en train de travailler, de faire mûrir et de faire germer au milieu de nos tribulations, au milieu de nos situations compliquées. Hein ? Ok. Ce qu'on est en train de dire là, en fait, ça touche à l'un des buts majeurs de nos vies. Ce qu'on poursuit en premier, et j'aimerais vous laisser ces questions-là, est-ce que l'annonce de l'Évangile fait partie des objectifs qu'on poursuit en premier ? Répondons honnêtement dans nos cœurs. Est-ce que l'annonce de l'Évangile fait partie des objectifs que je poursuis en premier ? Est-ce que tout ce que nous faisons cherche à contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que Christ soit annoncé ? Et moi, je n'ai pas peur de vous répondre non. 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 Je ne suis pas toujours dans cette démarche, mais aujourd'hui, je me laisse reprendre par rapport à ça. Et j'aspire et je prie pour plus de fruits dans mon évangélisation et dans mon témoignage de Christ dans ma vie. Oui. Et je voudrais vous emmener sur ce chemin-là avec moi, avec nous. Ne laissons pas l'évangélisation à une équipe de spécialistes, les amis. L'annonce de l'Évangile, c'est un mandat que nous avons tous reçu. Tous. Alors oui, on est complémentaires. Oui, il y en a certains qui sont appelés à un ministère d'évangélistes, particulièrement. Mais l'évangéliste, ce n'est pas celui qui est spécialisé pour annoncer la parole de Dieu pendant que nous, on fait autre chose de tout aussi spirituel. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui a un cœur et qui a du fruit particulier dans l'évangélisation, mais qui aussi et surtout a pour fruit de transmettre ce cœur dans toute l'Église, de transmettre ce zèle de l'évangélisation dans toute l'Église. Et c'est à ça qu'on voit les fruits d'un évangéliste, c'est quand toute une communauté se lève avec lui pour annoncer l'Évangile. Donc non, il n'y a pas des spécialistes de l'évangélisation, et puis ensuite les autres. Il y a nous tous qui avons reçu le mandat d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, faire des nations, des disciples, partout, tous les jours, tout le temps. Et Paul, il vit comme ça. Il vit pour annoncer Christ. Hein, et dans cette vie de témoin, il a connu des épreuves difficiles, peut-être des épreuves plus dures encore que toutes celles que nous, on a connues. Et pourquoi Paul, il est éprouvé de la sorte ? Pourquoi est-ce que nous aussi, on est éprouvés ? Est-ce que c'est Dieu qui nous teste ? Est-ce que c'est l'ennemi qui nous attaque ? Ben clairement, il y a des fois, on ne sait pas, les amis, pourquoi on est éprouvés. On ne sait pas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'il ne faut pas passer trop de temps à chercher pourquoi on est dans l'épreuve, parfois. Mais à peut-être juste lever les yeux et dire, au travers de cette épreuve, comment je vais pouvoir être un témoin de Christ ? Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. Mais au milieu de cette épreuve, je veux être un témoin de qui tu es, Seigneur. Dieu a dit qu'on serait éprouvé. Dieu a dit qu'on allait souffrir comme Christ a souffert, mais que les perspectives, c'est Christ. Hein ? On a 1 Pierre 4 qui nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris !» comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Sa gloire apparaîtra, pardon. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors comme Paul, on a pris la scène ce matin. Ayons part aux souffrances de Christ. Ça ne veut pas dire recherchons l'épreuve.
Mais ça veut dire, acceptons l'épreuve. Acceptons qu'il y a une part de souffrance, des fois, dans cette vie-là, qui ne nous empêchera jamais d'être témoins de Christ et de voir l'Évangile progresser au travers de nos propres vies, même si nous sommes dans les chaînes. Et ça nous rappelle quelle est notre espérance principale. Notre espérance majeure. Est-ce qu'elle est dans cette vie, limitée en nombre d'années, limitée en ressources, limitée en état de santé? Ou est-ce que notre espérance, elle est dans la vie éternelle qui est à venir et qui est promise et qui, elle, n'a pas de limite? Où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de mort? Est-ce que notre espérance, elle est là? Notre trésor, est-ce qu'il est là? Où ni les vers, ni la rouille ne détruisent? Où est-ce qu'il est dans cette vie? Et selon où est notre espérance, on va traverser les épreuves qu'on vit d'une manière complètement différente. C'est un encouragement à lever les yeux dans l'espérance éternelle que nous avons et pas dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Okay. Je vais aller un peu plus vite sur les deux sous-péricopes suivantes, versets 19 à 21, « Vivre pour glorifier Christ ». Car je sais, donc tout ce qu'il a dit avant, hein, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et même le chagrin que Paul, il éprouve personnellement des intentions malveillantes de ses adversaires, ben même ça, ça devait contribuer à son bien spirituel. Même ça, ses détracteurs devaient contribuer à son salut en vertu d'un principe qu'il a lui-même posé dans Romains 8, 28, « Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment ? Eh bien, par deux moyens précieux que Paul il nous propose là. Les prières de ses frères, et ô combien il est important que nous puissions nous soutenir les uns et les autres dans les épreuves que nous traversons par la prière. Elle est puissante, cette prière. Elle est riche. Et c'est important de pouvoir nous soutenir les uns et les autres face aux difficultés que nous traversons. Et la deuxième clé, c'est la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Par le témoignage duquel Paul, il avait toujours la certitude de son adoption et de son triomphe final sur tout ce qui aurait pu lui nuire. Par lui-même, Paul, il peut savoir ces choses-là, mais il n'y a que l'Esprit qui peut les rendre vivantes en nous. Et nous rappeler que cette espérance qu'on discerne, qu'on peut lire dans la parole, elle n'est vraie que parce que le Saint-Esprit nous en révèle la véracité. Que le Saint-Esprit lui fait prendre vie dans nos cœurs et nous rend capables de ne pas regarder nos pieds et la difficulté dans laquelle on est, mais de regarder Christ et de voir plus loin. Et quand Paul y dit que Christ sera glorifié dans son corps, ça veut dire par toute ma vie sur la terre, soit que cette vie se prolonge et que je serve encore mon maître, soit qu'elle doit bientôt aboutir à la mort, dans l'un ou l'autre cas, Christ sera glorifié. Et voilà la seule pensée de Paul. Glorifier son Sauveur. Glorifier son Seigneur. Et il oppose ça au fait d'être confus, à la honte. Hein, il dit au verset 23, « Je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien parce que Christ sera glorifié dans mon corps, que je vive ou que je meure. » Paul, il ne veut pas être confus. Paul, il ne veut pas être trouvé hésitant. Il ne veut pas être trouvé incrédule. Paul, il veut juste lever les yeux vers Christ et dire « Seigneur, je veux vivre pour toi. » Paul, dans Romains 12, il nous dit que Dieu attend de notre part un sacrifice vivant, qui soit saint et agréable à Dieu. et que c'est de notre part un culte qui est raisonnable. Je trouve ça incroyable que ce soit juste raisonnable de nous offrir en sacrifice complet, le sacrifice de toute notre vie. C'est vraiment très connecté, du coup, à la manière dont Paul traverse cette épreuve-là. Paul nous montre ce que c'est que le sacrifice de toute une vie, un culte raisonnable. Hein. Paul, il s'est offert à Dieu en sacrifice vivant et saint, et donc, parce qu'il a fait ça, c'est plus à Paul de choisir la manière dont il va glorifier Dieu. C'est plus à lui de choisir si il va glorifier Dieu en restant sur la terre et en continuant d'accomplir l'œuvre que Dieu lui donne de faire, ou si c'est en mourant pour Christ et en allant auprès de lui le glorifier pour l'éternité. Paul s'est sacrifié. Il est mort. Et il est vivant de la vie de Christ en lui. Et il laisse Christ décider. Il laisse Christ décider. Peu importe que je vive ou que je meure. Est-ce qu'on est tous capables de dire ça? Je baisse la main. Non, c'est difficile. Paul, il va loin dans ce qu'il est en train de dire là. Mais il nous montre un modèle. Il nous donne une impulsion vers laquelle on est censé aller. Le sacrifice de toute notre vie. Et est-ce que Paul le dit avec des larmes et de la tristesse et de la contrition? Il le dit avec zèle, avec empressement, avec joie même, et il en parle juste après. Et si Paul, il n'a qu'une pensée, qu'un désir, qu'un but, c'est de glorifier Dieu, dans ce passage, le verset 20, il utilise même trois termes en disant qu'il a une bien ferme assurance de l'atteindre. Hein, il y a trois termes qui sont vraiment forts, énergiques, où il dit, il parle d'une ferme attente, il parle d'une espérance, il parle d'une pleine assurance, tout ça dans le même verset. C'est-à-dire que Paul, il n'était pas en train de se faire une sorte de pensée positive, de dire dans cette situation, il faut que je pense positivement à la gloire de Dieu, il faut que je pense positivement à Christ. Paul, il est en train de nous montrer qu'il parle de pleine assurance, d'espérance, de ferme attente. Paul, il montre une détermination à ce que Christ soit glorifié dans cette situation. Et ce n'est pas de la pensée positive. Et des fois, dans les épreuves qu'on traverse, on regarde à Christ pour aller mieux. Des fois, on regarde à Christ pour aller mieux. On regarde à lui en se disant, oui, de là me vient le secours. Mais bien sûr que de là vient le secours, oui. Bien sûr que de l'Éternel vient le secours dans les épreuves que nous traversons. Mais Paul, il va plus loin là. Il nous parle de détermination à glorifier Dieu, même dans les épreuves que nous traversons. Et c'est plus encore que de juste recevoir le secours de Dieu pour traverser l'épreuve à laquelle on est confronté. Et le verset 21, il dit clairement la raison profonde et inébranlable de pourquoi Paul dit ces choses-là, pourquoi il est certain, pourquoi il est déterminé, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie. Oui, je me suis sacrifié pour toi, Seigneur. Oui, j'ai accepté de mourir et que ta vie renaisse en moi. Alors oui, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Même ça, c'est un gain. Et l'assurance de Paul de glorifier son Sauveur, quoi qu'il arrive par sa vie ou par sa mort, repose sur le fait qu'il ne vit plus pour lui-même, mais pour Christ. Sa vie terrestre lui est consacrée au point que vivre ici-bas n'a plus de valeur, d'utilité ou de but que pour Christ. Il n'y a pas d'autre motif de vivre que Christ. Voilà pourquoi je disais que Christ est un fil rouge dans cette péricope. Tout le long, l'annonce de Christ, la gloire de Christ. Et cette dernière sous-péricope 22 à 25, vivre pour célébrer Christ. Paul, il ne sait pas ce qu'il doit choisir dans ces derniers versets. Il ne sait pas s'il doit partir ou rester. Il préférerait être avec Christ, hein, c'est ce qu'il dit. Mais puisque sa présence, elle est plus utile pour les croyants, il est persuadé qu'il restera pour leur joie en Jésus-Christ. Leur joie en Jésus-Christ. Il est dans l'épreuve, il est dans les chaînes, il est en captivité, il est encore en train de parler de la joie, de la foi en Christ. Paul, quand est-ce que tu pleures, comme nous? Il pleure aussi. Paul n'est pas un super-héros, mais il nous encourage sur cette notion-là, la joie de connaître Christ. C'est incroyable, hein, qu'au milieu de cette épreuve, Paul y pense à ça. Et cette joie, elle contraste tellement avec la situation. Hein, on s'attendrait à un Paul abattu, mais on a un Paul qui nous parle de joie. Et souvenons-nous de ce verset de Néhémie 8:10 qui dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et on avait décortiqué ensemble ce verset-là et on avait vu que ce verset, ce qu'il veut dire, c'est la joie que donne l'Éternel, elle est pour nous comme une forteresse. La joie que donne l'Éternel, elle est pour nous comme une forteresse qui nous rend capables de traverser et de faire face à toutes les situations, même les plus difficiles. Alors oui, dans ce que nous traversons de dur, continuons de proclamer qu'il y a une grande joie à connaître Christ. Et notre joie, elle n'est pas ailleurs que dans le fait que nous connaissons Christ. Là encore, c'est le fil rouge. Paul, il dit qu'il trouverait meilleur de s'en aller, de partir. En grec, c'est le terme qui voudrait dire délié. Hein, il était dans les liens. Il voudrait être délié pour être avec Christ. Mais d'un autre côté, il y a un lien là, plus fort, qui le retient encore sur la terre. Et c'est le désir d'être encore utile à l'Église. Il sait que sa présence, elle est nécessaire à celle-ci. Et c'est vraiment légitime pour les uns ou les autres de peut-être parfois soupirer après la pleine délivrance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans certaines situations de dire « Oh Seigneur, si juste tu pouvais revenir ou me prendre maintenant et que ce soit terminé. » Des fois, on soupire après cette pleine délivrance. Et si c'est notre cas et qu'on éprouve ce besoin pressant de quitter ce monde enfin, peut-être c'est votre cas ce matin. Demandons-nous quand même simplement si c'est vraiment pour être avec Christ. Est-ce que c'est pour être avec Christ? Ou est-ce que c'est juste pour être libérés nous-mêmes? Est-ce que c'est pour être mieux? Ou est-ce que c'est pour être avec Christ? Et pour continuer à être dans la joie de le connaître, de le célébrer, de le glorifier parce qu'il est le trésor de nos cœurs et que c'est lui que nous voulons retrouver. Et selon notre réponse à cette question-là, on va peut-être aborder différemment le fait d'attendre juste une délivrance de la part du Seigneur dans nos corps ou dans les situations qu'on traverse. Et encore une fois, la perspective de toutes nos vies, comme Paul nous le démontre dans ses versets, c'est Christ, que l'on soit ici-bas sur terre ou que l'on soit parti, délié, c'est Christ. Il n'y a rien qui va changer. Pour l'éternité, ce sera encore Christ. Et Paul, il exprime finalement ce sacrifice qu'il ressent et qu'il doit faire encore de rester dans ce corps de mort et dans ses chaînes plutôt que d'être pleinement libre avec son Dieu. Et un sacrifice en vue de quoi? Verset 25, pour la joie de la foi en Jésus-Christ, des croyants des églises dont il prend soin. Et même dans nos épreuves, les amis, nous pouvons être une source de joie et d'édification pour ceux qui sont autour de nous. Même dans l'épreuve, même quand on ne se sent pas digne d'être un soutien pour celui qui est à côté de moi. Peut-être qu'il y a des moments où on sent qu'on a juste besoin d'être nous-mêmes aidés, mais attrapons avec foi, comme Paul nous le montre dans ce passage, que même au milieu de l'épreuve, Christ a des ressources pour que nous soyons une édification pour ceux qui sont autour de nous, en vue de la joie de connaître Christ. Oui, nous pouvons témoigner au milieu de nos épreuves pour encourager autour de nous et amener à cette joie-là. Et donc en conclusion, et je vais finir mon message là-dessus, alors que Paul y traverse une épreuve difficile, celle d'être emprisonné pour le nom de Christ, il nous encourage en nous rappelant qu'au-delà des histoires de nos vies avec un petit H, il y a une histoire avec un grand H bien plus grande qui se déroule. Et celle que Dieu, il écrit de manière parfaite, même au travers de nos vies imparfaites. Et ça, c'est une espérance éternelle, les amis. Que Dieu écrit de manière parfaite, même avec nos propres vies qui ne le sont pas. Et c'est une pleine assurance au milieu de l'épreuve de se souvenir que Dieu est en train de faire une œuvre parfaite dans l'histoire, avec un grand H. Et cette grande histoire divine, elle doit nous pousser à vivre selon cette perspective, une perspective du coup plus grande que nos propres vies, une perspective qui s'appelle Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à vivre, voilà comment nous sommes appelés à vivre dans le deuil et dans l'allégresse, Christ. Et donc Paul nous exhorte par son exemple sur ces trois points, nous devons vivre pour annoncer Christ, nous devons vivre pour glorifier Christ et nous devons vivre pour célébrer la joie de connaître Christ, tout ça même au milieu de nos épreuves. Et est-ce que ça veut dire que l'épreuve, elle n'est pas difficile parfois ? Ou qu'elle ne devrait pas nous faire souffrir ? Non. Mais Paul, il nous encourage avec ce verset-là, Romains 8, 18 et 19, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et je nous laisse à la fin de ce message avec cette question ce matin. Est-ce que nous voulons nous lever pour être ces fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir ? Ces fils de Dieu qui, même au travers de l'épreuve, suivent une ligne qui s'appelle Christ. Est-ce qu'on est prêt à répondre et à dire oui, on veut faire partie de ces fils de Dieu que la création attend ? Oui, Seigneur, on veut se lever avec une vision et une perspective renouvelée que oui, c'est Christ que toute ma vie poursuit dans l'abondance et dans la disette. Est-ce qu'on veut être témoin de Christ ? Qui vivent pour Christ, qui annoncent Christ, qui glorifient Christ et font de lui leur plus grande joie. Et si on veut être de ces hommes et ces femmes, je nous invite juste à nous lever. Si vous voulez répondre uniquement, et puis qu'on puisse juste prier et nous engager, de dire « Seigneur, nous voulons être ces fils et ces filles de Dieu que la création attend, Seigneur. » Et je vous propose qu'on puisse juste lever les mains et puis prier ensemble et dire « Seigneur, tu nous vois debout, Seigneur, tu vois nos mains, tu connais nos cœurs, Seigneur, vois notre engagement, notre envie, notre zèle, Seigneur, de dire que même au milieu de l'épreuve, Seigneur, et au milieu des plus grandes joies, nous ne voulons jamais perdre de vue cet objectif, Seigneur, que nos vies sont pour toi, que nous servons à annoncer qui tu es, Seigneur, à glorifier ton nom et à célébrer jour après jour le fait de te connaître, Seigneur. Oui, nous voulons être des témoins de Christ dans toute cette nation, Seigneur, dans toute cette terre même, Seigneur. On ne sait pas jusqu'où tu peux nous envoyer, Seigneur, mais peu importe. Que nous vivions, que nous mourions, Seigneur. Nos vies sont à toi, nos vies sont pour toi, Seigneur. Trouve en nous ces fils et ces filles qui t'appartiennent, Seigneur, que cette création attend, Seigneur. Nous voulons être des messagers de ta parole parfaite, Seigneur. Nous voulons être des témoins dans nos propres vies de l'histoire parfaite que tu écris, Seigneur, même au-delà de nos imperfections à nous, Seigneur. Sois glorifié dans nos corps, Seigneur. Sois glorifié dans ce que nous sommes, aujourd'hui et pour tous les jours de nos vies, Seigneur, selon le nombre que toi tu as décidé, Seigneur. Oui. Merci de renouveler aussi notre attente, notre espérance, notre compréhension, notre vision de qui tu es, Seigneur. Nous avons besoin que tu sois un rocher sûr et inébranlable sous nos pieds, Seigneur. Tu l'es, mais on a besoin de le voir des fois plus, Seigneur, dans des situations difficiles. On prie que tu te révèles comme ce roc inébranlable, Seigneur, ce rocher sûr, cet abri, cette forteresse qui vient de la joie que nous te connaissons, Seigneur. Sois glorifié au travers de nos vies, Seigneur. On prie pour du fruit au travers de cet engagement, Seigneur. On veut voir des changements dans nos vies, Seigneur. On veut que ton esprit nous pousse dans des retranchements qu'on n'a pas connus, Seigneur, et on veut dire on n'a pas peur, Seigneur. On n'a pas peur parce que nous vivons pour toi, parce que nous nous sommes sacrifiés pour toi, Seigneur, afin que toi, tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Utilise-nous pour ton message et pour ta gloire. Amen. Amen.